Bonjour, chers auditeurs. Comme chaque premier mercredi du mois, nous retrouvons l'association Clair d'Étoiles. Aujourd'hui, c'est Pascal qui va d'abord nous parler du ciel d'avril. Ensuite, ce sera le focus, dans lequel il sera question de la matière noire, un sujet qui interroge la communauté scientifique et nécessitera plusieurs développements préalables. Bonjour Pascal.
Bonjour Sylviane.
Que nous promet ce mois d'avril ?
Le mardi 9, 6 et le mercredi 7, à l'aube, 1h30 avant le lever du soleil, le croissant de lune permet d'identifier Saturne et Jupiter sans ambiguïté. Ces deux astres brillent juste au-dessus de l'horizon est-sud-est. Du mercredi 14 au samedi 17, 2 heures après le coucher du soleil, un croissant lunaire de plus en plus épais et brillant rend visite aux Pléiades, à Aldébaran, puis à Mars. Le 14, le fin croissant de lune sera juste en dessous des Pléiades, qui sont un amas d'environ 3000 étoiles, dont une douzaine est visible à l'œil nu. Il s'étend sur 2 degrés, soit l'équivalent de 4 fois le diamètre apparent de la pleine lune. Observable avec des jumelles, c'est un magnifique spectacle. Le 15, ce croissant de lune se trouvera à droite d'Aldébaran, une étoile très brillante de la constellation du Taureau, de couleur rouge, comme Mars. Enfin le 16, la Lune se trouvera juste en dessous de Mars. Le dimanche 25 verra le retour de Vénus. Au crépuscule, une demi-heure après le coucher du Soleil, avec un horizon ouest-nord-ouest bien dégagé, on peut repérer Vénus et Mercure très proches. L'utilisation de jumelles facilitera là encore l'observation. Le mercredi 4 mai, un peu plus d'une heure après le coucher du soleil, Mercure brille au-dessus de l'horizon ouest-nord-ouest avec sur sa droite le petit groupe d'étoiles des Pléiades évoqué plus haut.
C'est le mardi 4 mai en fait. Et passons maintenant au sujet du jour. J'espère que nos auditeurs à la fin de la chronique y verront un peu plus clair.
En commençant à réfléchir sur ce sujet, je me suis en effet très vite rendu compte qu'il n'était pas possible de le traiter sans évoquer préalablement la gravitation.
La gravitation, c'est ce qui explique que lorsqu'on lance une pierre en l'air, elle retombe. À l'origine de cette découverte, il n'y a pas une histoire de pomme ?
Tu penses sans doute à Newton. Newton cherchait à comprendre pourquoi les planètes tournent autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. La légende raconte qu'alors qu'il se reposait sous un pommier, un fruit se détacha de l'arbre et lui tomba dessus. Et de cette expérience, il aurait déduit qu'il y avait une force d'attraction entre les corps. La force gravitationnelle. Mais ça, c'est la légende. Même si cela ne s'est pas passé aussi simplement, ses réflexions et calculs l'ont amené à déduire qu'il y avait une force d'attraction entre les objets comparable à l'action d'un aimant. Cette force est d'autant plus importante que les corps sont massifs et proches.
Mais tu ne vas pas me dire que la Lune tombe sur la Terre, non ?
Revenons à ton exemple de pierre. Plus tu la lances fort, plus elle va retomber loin. Avec une vitesse suffisante, elle se mettrait à tourner autour de la Terre. Cette vitesse devrait être supérieure à 7,9 km/s. À titre de comparaison, la vitesse des balles de fusil les plus rapides n'est que de 1 km/s. À noter que plus l'objet est proche de la Terre, plus sa vitesse devrait être grande. À 200 km, ce sera 8 km/s. Et à 2000 km, 6,9 km/s. La Lune, qui est à 384 000 km de la Terre, se déplace à un peu plus de 1 km/s. Et tu as raison, on pourrait dire que la Lune tombe sur la Terre, mais à cause de sa vitesse, elle manque systématiquement sa cible.
Et cette force gravitationnelle, c'est un peu comme la ficelle d'une fronde entre la main et la pierre.
Ta comparaison est très juste. Mais même si sa théorie était très bonne et permettait des calculs astronomiques très précis, Newton ne comprenait pas la teinture de cette force, qui avait la particularité de se propager instantanément.
Et aujourd'hui, on en a une idée un peu plus précise ?
Pour cela, il a fallu attendre 2 siècles et Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité. C'est une théorie très complexe, qu'à son époque, beaucoup de scientifiques avaient du mal à comprendre. Pour simplifier, je vais prendre une analogie. Imagine l'espace comme une grande nappe tendue. Place en son centre un objet lourd, une boule de pétanque. À l'endroit de la boule, la nappe va se creuser. Maintenant, fais rouler une bille en direction de la boule. Si sa vitesse est trop faible, elle va tomber sur la boule. Par contre, si sa vitesse est trop forte, elle va commencer à descendre dans le creux, puis remonter de l'autre côté et s'éloigner de la boule. Entre les deux, la bille va se mettre à tourner autour de la boule. Autre conséquence importante de cette théorie, c'est qu'elle prévoit que même les rayons lumineux, pourtant de masse nulle, vont être déviés de leur trajectoire, ce qui fut vérifié quelques années plus tard lors d'une éclipse de soleil.
Bon, et alors, la matière noire dans tout ça ?
J'y arrive. En 1950, la jeune étudiante états-unienne Vera Rubin présente son mémoire devant la Société américaine d'astronomie. En tant que femme, elle a choisi un sujet encore peu exploité par ses collègues masculins, comme les trous noirs. Elle décide d'étudier le déplacement des étoiles dans les galaxies et elle opte pour la galaxie d'Andromède. C'est une des rares galaxies visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère nord. Elle constate que contrairement à ce que prévoyait la théorie, c'est-à-dire que plus on s'éloigne du centre de la galaxie, plus la vitesse de déplacement des étoiles doit être faible, les étoiles loin du centre se déplacent beaucoup trop vite. Elle ne comprend pas pourquoi ce qui était valable pour le système solaire ne l'est plus à l'échelle des galaxies. Ne voulant pas remettre en cause les théories de ses illustres prédécesseurs, elle en déduit que la masse de la galaxie a simplement été sous-estimée. D'autres observations viendront corroborer ce résultat. Quelle est donc cette matière qui n'avait pas été révélée par les observations ? De plus, cette matière sera en quantité 5 fois plus grande que celle constituée par la matière faite d'atomes, celle qui constitue tout ce qui nous entoure, les étoiles, les planètes, les minéraux, les végétaux, les animaux et nous-mêmes. Matière faite d'atomes, eux-mêmes composés d'électrons, de protons et de neutrons.
Mais comment est-ce qu'on observe la matière ?
Grâce à la lumière. Toute matière connue soit réfléchit, soit émet de la lumière. Mais d'abord, il faut préciser ce que l'on entend par lumière. Il y a ce que l'on voit avec nos yeux, mais ce n'est qu'une toute partie. D'ailleurs, plutôt que de lumière, il faudrait parler de rayonnement électromagnétique. Ce que l'on peut voir à l'œil nu va du rouge au violet, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Au-delà du violet, il y a les rayons ultraviolets, utiles pour bronzer, mais avec modération. Les rayons X et les rayons gamma. En deçà du rouge, il y a l'infrarouge et les ondes radio. Par exemple, de jour ou avec une lumière artificielle, on peut voir les personnes autour de nous. Mais dans l'obscurité totale, on ne voit plus personne, sauf si on utilise des jumelles infrarouges, car notre corps, avec sa température de 37 degrés, émet des infrarouges. Beaucoup d'instruments ont été développés pour observer ces divers rayonnements, dont de grandes antennes pour la radiotélescope, d'autres lancées en orbite autour de la Terre pour s'affranchir du filtre que constitue l'atmosphère terrestre.
Et est-ce qu'on est bien sûr d'avoir tout observé et tout pris en compte ?
C'est bien évidemment la première question qui s'est posée. Diverses possibilités ont été envisagées. Les trous noirs, les naines noires qui sont des étoiles avortées, les naines blanches qui, elles, sont des étoiles en fin de vie, les nuages de poussière. Eh bien, même si on additionne tout cela, on est loin du compte. Il manque plus de 80% de matière.
Alors, à quoi correspondent ces 80%?
Justement, on ne sait pas. Sans interaction avec la matière que l'on connaît, c'est quelque chose qui occupe une partie de l'espace et dont on ignore de quoi elle est composée. On sait ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire composée d'électrons, de protons et de neutrons.
Comment la mettre en évidence si elle n'agit pas sur la matière classique ?
Plusieurs expériences sont en cours, dont deux dans les Alpes. Une se situe dans le tunnel de Modane. Enfouie sous 1700 mètres de roche, une enceinte de plomb et de cuivre pour isoler de tous les rayonnements renferme un cristal de germanium. En cas de collision avec une particule de matière noire, le cristal va vibrer, ce qui va provoquer une élévation de température de l'ordre de 1 millionième de degré, qui sera mise en évidence par des détecteurs ultrasensibles. Comme la probabilité d'une telle collision est très faible, on laisse l'expérience tourner pendant une année, et ensuite on examine les enregistrements.
Et on a déjà pu voir quelque chose de significatif ?
Non. Les quelques rares traces observées n'ont pu être attribuées avec certitude à un tel événement. Il faut dire que le signal à analyser est vraiment minuscule et que la moindre incidence extérieure peut fausser les résultats. À 700 km de là, sous la montagne du Grand Sasso, une expérience semblable est menée en utilisant du xénon liquéfié comme détecteur. D'autre part, un système a été installé sur la Station spatiale internationale. Sa mission est de détecter d'éventuelles collisions entre particules de matière noire.
Donc, on n'a encore rien trouvé.
Pour le moment, rien. Alors, d'autres scientifiques se sont dit que comme on ne parvenait pas à détecter ces particules de matière noire, pourquoi ne pas essayer d'en créer ?
Et on sait faire ça ?
À la frontière franco-suisse, à 100 mètres sous terre, il y a un anneau de 27 km de circonférence, un accélérateur de particules. C'est dans ce dispositif qu'a été confirmée l'existence du boson de Higgs. Dans cet anneau sous vide, on fait circuler à très haute vitesse, proche de celle de la lumière, des particules qui vont entrer en collision. Cela se passe dans un espace minuscule, de l'ordre du millième de milliardième de centimètre cube, en un temps extrêmement bref de l'ordre du milliardième de seconde. Ensuite, avec un détecteur ultra-sensible, on examine les traces des particules créées lors de ces collisions, en espérant y trouver la trace d'une particule de matière noire.
Et ça a déjà donné des résultats ?
Malheureusement, pas encore. Mais patience ! Sais-tu que les premiers à avoir évoqué l'existence de l'atome, ce sont les Grecs, il y a 2500 ans, et que cela n'a été prouvé qu'au début du XXe siècle.
Espérons qu'il ne va pas falloir attendre aussi longtemps. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres hypothèses ?
En 1983, le physicien israélien Mordechai Milgrom propose une petite modification de la théorie de Newton. Il montre que cela permet de résoudre le problème de la rotation trop rapide des étoiles et des galaxies. Il baptise sa théorie MONDE, en français dynamique de Newton modifiée. Mais si sa théorie permet de résoudre le problème de la vitesse des étoiles dans les galaxies sans faire appel à de la matière noire, elle apporte d'autres questions non résolues.
Quoi d'autre alors ?
Remettre en question les théories de la gravitation. Mais cela serait un énorme bouleversement semblable à la révolution copernicienne qui remplaça la Terre par le Soleil au centre de l'univers. Finalement, plus on avance dans la connaissance, plus on s'aperçoit de l'importance de ce qu'il reste à découvrir.
Et c'est sur cette conclusion ouverte à tous les possibles que nous vous donnons rendez-vous début mai pour une nouvelle émission de Clair d'Étoiles.